Et à 8h, c'est l'heure de votre journal, Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Financer un plan de 750 milliards d'euros, vaste chantier auquel s'attellent ce matin les dirigeants des 27 pays européens. Ils envisagent de créer de nouveaux impôts sur les activités polluantes notamment.
Il est aussi question d'environnement ce matin en France, puisque l'Assemblée de la Convention citoyenne sur le climat a formulé ses propositions. Nous en parlons avec notre invité de la matinale, Loïc Blondiaux, et nous détaillerons les mesures dans ce journal.
Nous irons ensuite en Allemagne, où plus de 700 salariés d'un abattoir ont été testés positifs au nouveau coronavirus.
Et puis en Turquie, puisqu'Ankara a lancé une offensive contre les Kurdes en Irak, Bagdad lui demande de retirer ses troupes et de cesser les actes de provocation.
L'enfermement en psychiatrie en temps de pandémie, difficile équation dans de nombreux établissements. L'un d'eux dans le Val d'Oise est épinglé par le contrôleur des lieux de privation de liberté. Vous comprendrez pourquoi en fin de journal. Et après cette édition, le billet politique reviendra sur la loi Avia contre la haine en ligne, retoquée par le Conseil constitutionnel. Chronique d'une censure annoncée par Frédéric Seyss à 8h17. Puisque l'argent ne tombe pas du ciel, il va falloir le trouver. Trouver beaucoup d'argent pour financer les promesses dues à la crise sanitaire et économique que nous vivons depuis le début de cette année 2020. L'Union européenne s'est engagée sur un plan de 750 milliards d'euros, mais qui le remboursera dans 20 à 30 ans? Les 27 dirigeants de l'Union se réunissent ce matin pour en parler lors d'un conseil par visioconférence. Et il y a déjà une idée dans l'air, instaurer pour rembourser le plan de nouveaux impôts européens. Angélique Boin.
Plusieurs pistes déjà discutées dans le passé sont sur la table, comme l'élargissement au secteur maritime et aérien du marché carbone ou bien la taxation des plastiques non recyclés, la taxe carbone aux frontières sur les produits fabriqués par des usines polluantes est également dans les tuyaux, ou encore la fameuse taxe GAFA sur les entreprises du numérique que l'Europe pourrait bien décider seule. Mais tout cela ne rapporterait pas suffisamment selon Pierre Larouturoux. Pour l'eurodéputé de gauche, rapporteur du budget au Parlement, il faut aussi taxer les transactions financières et créer un nouvel impôt sur les grandes entreprises. Le fondateur de Nouvelle Donne a fait les comptes. Cela permettrait, dit-il, de doubler le budget européen et de rembourser sans peine ce grand emprunt.
C'est très important de dire que pour rassurer les gilets jaunes et tous les citoyens qui te disent « déjà j'ai du mal à gagner ma vie, s'ils augmentent les impôts, c'est non et non », ça ne retombe pas sur les citoyens et ce ne sera pas pris, il n'y aura pas un million de plus qu'on demandera au budget national de la France ou au budget national des Pays-Bas.
Mais même si les lignes bougent sur cette idée d'impôt européen, pas question pour certains États membres d'aller aussi loin, les négociations seront difficiles, confie un diplomate, et ne porteront sans doute dans un premier temps que sur la taxe plastique et le marché carbone, de ressources nouvelles pour le budget de l'Union dont on discutait déjà avant la crise.
Là, ce n'est pas pour financer un plan de relance, mais c'est véritablement pour sauver la planète que des propositions vertes sont faites. Le travail aura duré 9 mois, au terme desquels, en cette fin de semaine, 150 citoyens français tirés au sort ont accouché de mesures visant à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. La logique de justice sociale n'a pas été oubliée. Il en ressort donc 150 propositions, dont certaines suggèrent une modification de la Constitution française, Véronique Roberotte.
Il s'agit d'acter la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. En faire, je cite, un objectif de la République. Les citoyens proposent d'en modifier l'article 1er en ajoutant « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Une proposition semble bien partie pour être soumise à référendum, celle qui concerne la rénovation globale obligatoire du bâti, mesure de justice sociale s'il en est, puisqu'elle concerne la population la plus précaire. Les 150 citoyens proposent de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores d'ici 2030, plus aucune passoire thermique d'ici 10 ans et une rénovation plus large obligatoire d'ici 2040, un grand chantier national qui permettrait non seulement de réduire la facture énergétique, mais aussi de créer des milliers d'emplois dans le bâtiment. Les citoyens proposent aussi de légiférer sur le crime d'écocide, un crime qui punirait les actions ayant, je cite, « causé un dommage écologique grave avec des sanctions dissuasives pour les entreprises et des amendes calculées en pourcentage du chiffre d'affaires ». Les sanctions pourraient aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Parmi les autres propositions, l'interdiction des pesticides les plus dangereux d'ici 2035, l'instauration d'une taxe sur les dividendes pour financer la transition écologique, une réduction du temps de travail ou encore la baisse de la vitesse sur les autoroutes, pas plus de 110 km/h.
Alors la transcription de toutes ces propositions pourrait passer ensuite par la voie réglementaire ou parlementaire, mais également par un référendum sur décision finale du président Emmanuel Macron. Si tel est le cas, le rapporteur général de la Convention en serait ravi. Julien Blanchet est aussi vice-président du CESE, Conseil économique, social et environnemental.
Si nous avons un référendum, ça sera à l'issue de travaux de 150 citoyens de tous horizons, toutes professions, tous niveaux de diplôme, de tout âge aussi. À ce moment-là, on aura permis d'enclencher une nouvelle forme finalement de référendum en France. Peut-être y aura-t-il plusieurs questions, plusieurs référendums le même jour sur plusieurs sujets issus de la Convention citoyenne, la rénovation des bâtiments peut-être, peut-être d'autres sujets évidemment sur la question de la nourriture, sur la question des transports, sur la question du travail et de la production. Et je crois que là, on aura vraiment fait une grande innovation, une innovation démocratique, où les citoyens auront eu le premier mot, le président de la République, le Parlement auront eu à travailler, et puis ensuite, eh bien, tous les Français pourront s'exprimer.
Voilà, c'était un dossier réalisé par Véronique Rebérotte. Nous reviendrons plus longuement encore sur ces mesures proposées à partir de 8h20 avec notre invité des matins. Le vote final de la Convention citoyenne sur le climat aura lieu dimanche soir, avant donc la réponse de l'exécutif. Ces mesures-ci ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Il estime que certaines dispositions de la loi Avia porte atteinte à la liberté d'expression. Le texte visait à renforcer la lutte contre la haine raciste et antisémite qui prospère sur Internet, mais il obligeait les plateformes et les moteurs de recherche à retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites, sous peine d'être condamnés à des amendes. Le Conseil constitutionnel regrette que cette urgence se fasse sans la décision d'un juge dans la légalité. Le gouvernement, hier soir, prenait note afin de retravailler cette loi Avia. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, rentrait de Grande-Bretagne après une journée de commémoration. 80 ans après l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis la BBC, le président français a témoigné la reconnaissance infinie, ce sont ses mots, et la gratitude éternelle de la France à l'égard de Londres. En cette mi-juin pourtant, il n'est pas si facile de voyager comme le fait le président, car les frontières ne sont pas toutes ouvertes pour tout le monde. Des quatorzaines doivent être respectées, c'est le cas pour tout arrivant par exemple en Grèce. D'autres pays appliquent des restrictions strictes sur certains de leurs territoires à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Exemple avec le Monténégro où se trouve Eric Biegela.
À une heure de route au sud de Dubrovnik, sur la côte dalmate, on finit par quitter l'Union européenne. À la frontière, la police monténégrine filtre les ressortissants de l'UE. Tous ne sont pas admis. Pas de problème pour les Allemands, les Autrichiens ou les Croates, mais Français, Italiens, Espagnols ou Britanniques, les plus touchés par la pandémie, sont interdits de tourisme. Seul leur transit au travers du Monténégro est autorisé. Résultat, la ville de Kotor, au lieu du tourisme monténégrin, est désertée.
Everything based on tourism.
Tout est basé sur le tourisme ici.
Milica gère un petit hôtel dans la vieille ville.
We don't have tourists in
on n'a aucun touriste pour le moment.
I hope so in July when the border opens.
J'espère qu'en juillet, quand les frontières ouvriront, ça changera.
But the last 2 days,
mais ces deux derniers jours, on a eu
new cases from corona,
de nouveaux cas de coronavirus. Et du coup, on ne sait pas ce qui pourrait se passer au 1er juillet.
I'm frenzy.
I'm Victoria.
Francisca et Victoria, ainsi que leur mari, sont les seuls touristes étrangers rencontrés à Kotor. Ils sont descendus de Bavière en voiture après avoir appris que pour eux, Allemands, toutes les frontières étaient ouvertes.
We don't know what happened next.
On ne sait pas où on va, on choisit nos destinations au jour le jour. Peut-être qu'on remontera sur la Croatie et peut-être jusqu'à Venise. Ou comme à Dubrovnik, il n'y a pas beaucoup de monde en ces temps de coronavirus. Ce sera plus cool.
En l'occurrence, Victoria a parfaitement raison. De Kotor à Venise, en passant par Dubrovnik ou la Slovénie, les hauts lieux touristiques de l'Adriatique sont aujourd'hui tous accessibles et pour l'instant absolument vides de touristes.
C'était Eric Biegala accompagné par Gilles Gallinaro. Leurs reportages, leurs photos de la semaine sont à retrouver sur franceculture.fr. Restons dans la zone européenne puisque si les frontières ne sont pas entièrement poreuses, c'est que le nouveau coronavirus n'a pas entièrement disparu. Preuve en est ces chiffres communiqués ce matin. En Allemagne, le nombre de cas a grimpé ces dernières 24 heures, plus 770 cas. L'Allemagne et ses abattoirs particulièrement touchés. 730 ouvriers ont été testés positifs cette semaine, Ludovic Piétenu.
C'est le plus grand abattoir d'Allemagne et d'Europe.
Tönnies emploie sur ce site ouest-allemand près de Münster 6400 ouvriers. Sur les 1106 déjà testés, près des trois quarts, 730, sont positifs et placés en quarantaine. Il va falloir étendre ces contrôles à tous les autres salariés. Cela va prendre plusieurs jours. Une douzaine de soldats de l'armée allemande arrivent aujourd'hui en renfort de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Malte. Dans ce secteur, beaucoup de travailleurs sous-traitants venant de Pologne, de Roumanie ou de Bulgarie. Avec la réouverture des frontières, certains d'entre eux ont voyagé, sont retournés dans leur famille et auraient, selon les dires du président de la région, Armin Laschet, candidat à la succession d'Angela Merkel, importé le virus. Cette affirmation a fait scandale. Il est revenu sur ses propos. Ce sont les conditions de travail et l'hébergement de ces personnes qui sont en cause. Après de précédents cas au mois de mai dans d'autres abattoirs du pays, le ministre du Travail avait pourtant durci les contrôles. Il a promis hier de redoubler de vigilance dans ce secteur où le froid aussi favorise l'épidémie.
C'était Ludovic Piétenu.
8h11 sur France Culture. Nous poursuivons ce journal. Clara Lecoq-Réal en Turquie.
Oui, la Turquie qui est montrée du doigt pour son interventionnisme en Libye. Eh bien, elle ne s'arrête pas là, puisqu'Ankara vient de lancer une nouvelle offensive contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Cette activité militaro-diplomatique inquiète Bertrand Galichet.
Pour la deuxième fois cette semaine, l'ambassadeur de Turquie à Bagdad a été convoqué hier au ministère irakien des Affaires étrangères qui appelle les Turcs à retirer leurs soldats infiltrés en Irak. Une réaction à l'opération militaire entamée la veille à l'aide de commandos transportés par hélicoptère aux confins de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie contre les rebelles du Parti des Travailleurs du Kurdistan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan voudrait que le PKK soit expulsé du territoire irakien. Cette offensive s'inscrit dans une activité militaro-diplomatique tous azimuts qui vise à étendre l'influence régionale de la Turquie. En Libye, Ankara s'est engagée militairement aux côtés du gouvernement de Tripoli. Les Européens menés par la France viennent d'obtenir de l'OTAN l'ouverture d'une enquête sur un incident ayant opposé le 10 juin dernier la marine turque à un bâtiment français qui a été menacé à trois reprises par un repérage de tir lors d'une tentative de contrôle en Méditerranée d'un cargo suspecté de violer l'embargo sur les armes. Par la voix de Florence Parly, la France hausse le ton, dénonçant un acte extrêmement agressif. Mais au sein de l'OTAN, seuls les États-Unis, pour l'instant peu décidés à intervenir, pourraient infléchir l'attitude de la Turquie.
Ce chiffre à présent, on estime en Afrique que 120 000 enfants meurent chaque année à cause de faux médicaments. Un trafic mortel mais lucratif à 200 milliards de dollars, chiffre exponentiel qui finance même le terrorisme en Afrique. Isabelle Souquet s'y est intéressée pour le grand reportage de France Culture ce vendredi. Elle a notamment rencontré Koundé Gbepo, le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Il collabore à la lutte contre ce trafic qu'il voit grandir dans son pays.
Ceux qui font du trafic de médicaments, qui vont aller fabriquer quelque chose qui leur coûte 100 francs quelque part pour venir le mettre sur le marché à 1000 francs. Vous imaginez les gains importants de ce trafic. On était tombé avec la police judiciaire sur une situation où c'était des antipaludiques qui ont été contrefaits, qui étaient introduits ici et au Ghana voisin. Donc il y avait une coopération policière entre les deux pays qui a permis de mettre la main sur le trafiquant. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a découvert? Celui qui faisait venir ces médicaments, c'était quelqu'un qui au départ faisait du commerce de matériel de construction ou d'autres choses, mais qui a découvert en allant en Asie que trafiquer de médicaments était plus intéressant. Donc, on compare ce trafic au trafic des drogues, mais dans nos pays, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui font le commerce d'autres choses, qui, du jour au lendemain, se disent « mais le médicament, apparemment, c'est plus intéressant ». Récemment, on s'est demandé si le prochain Pablo Escobar sera peut-être un pharmacien en herbe ou en tout cas un trafiquant de faux médicaments, avec le même objectif, gagner de l'argent.
Pour des témoignages plus longs, plus nombreux à propos de ces faux médicaments en Afrique, rendez-vous à 17h sur France Culture pour le grand reportage d'Isabelle Souquet, La plaie de l'Afrique, faux médicaments. Un reportage réalisé grâce à Annie Bro qui sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Les médicaments en France, où la problématique là est de les fabriquer sur place pour ne plus dépendre des autres. Le gouvernement souhaite que l'ensemble de la chaîne de production du paracétamol soit situé en France d'ici 3 ans, annonce faite hier. Des patients enfermés à clé dans leur chambre à cause des risques liés à la Covid-19, mais sans décision médicale écrite. Voilà ce qu'a constaté le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la mi-mai dans un établissement psychiatrique du Val-d'Oise. Adeline Hazan publie donc aujourd'hui ses recommandations. Il ne faut pas, dit-elle, confondre isolement psychiatrique et confinement sanitaire, Tara Schlegel.
Cette recommandation, si elle s'adresse à l'établissement Roger Prévost de Moisselle, concerne toutes les unités psychiatriques, insiste Adeline Hazan. L'isolement ne peut reposer que sur une décision écrite d'un psychiatre. Un patient, même Covid, ne doit pas être enfermé contre son gré. D'ailleurs, la plupart des hôpitaux se sont organisés en secteur Covid où les malades circulaient librement. Et dans les zones tampons, les médecins ont motivé leur décision, raconte Caroline, une psychiatre d'Île-de-France.
On ne voulait pas être amené à isoler des patients sur des critères infectieux parce que, en effet, c'est pas légal et qu'on ne peut pas utiliser l'isolement psychiatrique à ces fins-là. Après, on a créé une zone tampon quand on a eu les tests pour pouvoir évaluer les symptomatiques. Là, ces patients, on leur a demandé de rester seuls dans les chambres. Et c'était des chambres hôtelières qui n'étaient pas fermées à clé. Et surtout, on donnait une explication.
La plupart des malades ont compris les gestes barrières, mais il y a eu des exceptions, même dans l'établissement de Caroline.
S'ils n'étaient pas en état de comprendre les mesures, c'est que psychiquement, ils n'allaient pas bien. Hein, et que la question à ce moment-là du risque pour les autres patients résidents était trop importante pour qu'on puisse les laisser circuler et qu'en effet, on devait être en chambre fermée, le plus confortable possible, puisque télé, sanitaire, etc. Et qu'on avait ces moyens architecturaux-là.
Une architecture sans doute plus contrainte à Moisselles, où les chambres étaient plus vétustes. On sait que l'État n'investit plus dans la psychiatrie depuis des années. En tout cas, la direction de l'établissement a rectifié la situation après le passage de la contrôleure, mais ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant.
Tara Schlegel pour France Culture. Un dernier mot, un dernier nom ce matin, celui du nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris. Il s'agit d'un Finlandais, Klaus Mäkelä, un âge surtout 24 ans seulement. Il va diriger le premier concert donné à la Philharmonie de Paris, ce sera le 9 juillet prochain. Le ciel sera encore bien nuageux à Paris et ailleurs, au nord de la Loire ce vendredi, avec quelques averses. Au sud de la Loire, en revanche, le soleil va briller avec 14 degrés à Brest ce matin, 18 à Bordeaux, Paris et Lille, 19 à Dijon et Lyon, 23 à Perpignan, Hervé.
Merci Clara Lecoq-Réal.